de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « Le parc d'attractions de Tokyo sur le thème de Hello Kitty fermé en raison d'une menace ». Le bilan des morts dus à la guerre en Palestine a atteint 29 000 personnes. Le gouverneur de Sumatra de l'Ouest a demandé aux habitants d'être attentifs aux catastrophes hydrométéorologiques potentielles. Le défilé indonésien anime la fête nationale du Brunei Darussalam. 5 femmes ont été tuées à Vienne en une journée. Bon, chers auditeurs, voici les journaux incomplets. Un parc à thème populaire sur le thème de Hello Kitty au Japon, Sanrio Puroland, a fermé ses portes samedi après avoir reçu un email menaçant d'actes de terrorisme. Dans un message sur son site internet, le parc a annoncé la fermeture pour la sécurité des visiteurs, les joueurs et le staff. La menace non précisée a incité la police à vérifier Sanrio Puroland à la recherche d'objets suspects, mais rien n'a été trouvé. Les autorités tentent d'identifier l'expéditeur du courrier électronique. Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, dans un communiqué publié samedi, a déclaré que le bilan des victimes de la guerre avait atteint 29 606 personnes. Le ministère de la Santé a déclaré samedi qu'au moins 29 606 personnes avaient été tuées dans les territoires palestiniens pendant la guerre entre les militants et Israël. Le bilan comprend au moins 92 morts au cours des dernières 24 heures, tandis que 69 737 personnes ont été blessées depuis le début du conflit le 7 octobre. Le gouverneur de Sumatra de l'Ouest, Mahyildi, a demandé samedi à Padang de continuer à se préparer davantage aux catastrophes hydrométéorologiques potentielles car la plupart des zones de la province sont encore inondées par la pluie jusqu'à la fin février 2024. Il a déclaré que son parti avait reçu un rapport d'alerte précoce et un rapport climatique pour Sumatra de l'Ouest d'Azalien 3 pour février 2024 du Centre régional 1 de l'Agence de météorologie, climatologie et géophysique. Dans le rapport, il est indiqué qu'en général, la majeure partie de la région de Sumatra de l'Ouest au cours de la deuxième année de février 2024 est en saison de pluie et on estime que cela se poursuivra au cours de la deuxième année de février 2024 ou au cours des 10 derniers jours de février 2024. Alors, selon lui, une vigilance accrue est nécessaire dans toute la région de Sumatra de l'Ouest pour anticiper les catastrophes hydrométéorologiques potentielles telles que les inondations, les crues soudaines, les glissements de terrain et les vents violents, y compris les impacts potentiels causés par la catastrophe. Le gouverneur a déclaré que le public doit également être plus conscient et vivre aux côtés de la nature. De cette manière, le risque de catastrophe hydrométéorologique peut être minimisé. L'ambassadeur indonésien au Brunei Darussalam, Ahmad Ubaidillah, a admiré la diversité des vêtements traditionnels indonésiens portés par l'Association communautaire indonésienne lors du 40e défilé de la fête nationale du Brunei Darussalam au stade national Hasanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, samedi. Dans une déclaration officielle de l'ambassade d'Indonésie à Bandar Seri Begawan, l'ambassadeur Ahmad a exprimé sa fierté de la participation de la communauté indonésienne aux activités au Brunei Darussalam. Le défilé indonésien de cette année a réuni 70 participants, dont 29 portaient des vêtements traditionnels indonésiens. Le défilé indonésien fait partie d'une série de commémorations de la fête nationale du Brunei Darussalam qui tombe le 23 février. Cette année, la célébration de la fête nationale du Brunei a réuni plus de 10 000 personnes, dont la famille royale, des représentants et des employés du gouvernement et leurs familles, le grand public ainsi que des invités d'honneur, des représentants de pays étrangers présents au Brunei. Outre l'Indonésie, des communautés étrangères comme la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Pakistan ont participé au défilé. Les autorités autrichiennes ont enquêté samedi sur les meurtres de 5 femmes dans la capitale Vienne en une seule journée, dont 3 ont été retrouvées brutalement poignardées à mort dans une maison close. L'Association des réfuges autonomes pour femmes en Autriche a enregistré 26 meurtres de femmes l'année dernière. Le gouvernement autrichien s'est engagé à prendre des mesures énergiques et a promis plusieurs mesures, notamment une augmentation du financement des organisations qui viennent en aide aux victimes de violences. Entre 2010 et 2020, 319 femmes ont été assassinées en Autriche, la majorité par des partenaires masculins ou anciens partenaires, et un record de 43 victimes en 2019. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Thank you.
La mise au point de la semaine d'aujourd'hui, dont le titre est « Le président inaugure deux nouveaux ministres du cabinet indonésien avancé ». Le président Joko Widodo a inauguré Hadi Cahyanto au poste de ministre coordinateur de la politique, du droit et de la sécurité et Agus Harimurti Yudhoyono au poste de ministre de l'aménagement agraire et spatial ou chef de l'agence foncière nationale ou en indonésien abrégé en ATR /BPN au palais d'état de Jakarta mercredi. L'investiture de Hadi Cahyanto et Agus Harimurti Yudhoyono a eu lieu simultanément conformément au décret présidentiel numéro 34P de 2024 concernant la destitution et la nomination des ministres d'État du cabinet indonésien avancé pour la période 2019 à 2024 stipulée par le président Joko Widodo à Jakarta le 20 février 2024. Hadi Cahyanto a été nommé ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité en remplaçant de Mohamed Mahfoud MD qui a démissionné de son poste en raison de sa participation en tant que candidat à la vice-présidence aux élections générales de 2024. Pendant ce temps, Agus Harimurti Yudhoyono a remplacé Hadi Cahyanto, qui était auparavant en poste en tant que ministre de l'aménagement agraire et spatial. Au nouveau ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, le président Joko Widodo a transmis un message lié à la sécurité et à l'ordre, notamment le soutien aux investissements qui entreront en Indonésie. Selon lui, Hadi Cahyanto est très prêt à traiter les questions liées à la politique, au droit et à la sécurité, d'autant plus que Hadi était auparavant commandant de l'armée nationale pour la période de 2017 à 2021. Parallèlement, le président Joko Widodo a conseillé au nouveau ministre de l'aménagement agraire et spatial d'encourager plus massivement la délivrance de certificats électroniques, d'achever la délivrance des droits de culture pour le mécanisme d'échange de carbone et de cibler 120 millions de parcelles de terrain à enregistrer via le système d'enregistrement foncier systématique complet. En réponse à cela, le ministre coordinateur des affaires politiques, juridique et de sécurité Hadi Cahyanto a déclaré qu'il se coordonnerait avec d'autres ministères et institutions gouvernementales non ministérielles pour maintenir la situation favorable actuelle. Le ministre des Affaires agraires et de l'aménagement du territoire, chef de l'Agence nationale foncière Agus Harimurti Yudhoyono, a également transmis la même chose. Selon lui, la priorité est de coordonner et de communiquer avec un certain nombre de ministères concernés pour résoudre les problèmes fonciers. Voilà la mise au point de la semaine. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 25 février. On commence par le 25 février 2018, le pacte de Varsovie a été déclaré dissous. Le pacte de Varsovie était une alliance militaire des pays du bloc de l'Est en Europe de l'Est visant à s'organiser contre d'éventuelles menaces de l'alliance de l'OTAN. La formation du pacte de Varsovie a été déclenchée par l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest dans l'OTAN par la ratification de l'accord de Paris. Le pacte de Varsovie a été rédigé par Nikita Khrouchtchev en 1955 et signé à Varsovie le 14 mai 1955. Le 25 février 1991, en Hongrie, le pacte a été déclaré terminé lors d'une réunion des ministres de la Défense et des Affaires étrangères de 6 autres pays membres. Le 25 février 1992, le massacre de Khodjali. Le massacre de Khodjali était le massacre d'un grand nombre d'Azerbaïdjanais à la ville de Khodjali le 25 février 1992 pendant la guerre du Haut-Karabakh. Selon l'Azerbaïdjan, Human Rights Watch et d'autres observateurs internationaux, le massacre a été perpétré par les forces armées arméniennes avec l'aide du 366e régime russe. Le décès de ce massacre s'élève à 613 habitants, dont 106 femmes et 83 enfants. La suite, le 25 février 1994, le massacre de la mosquée Ibrahimi en Palestine. Un juif, Deborah Goldstein, a perpétré un massacre à l'intérieur de la mosquée Ibrahimi à Hébron. Au moins 29 pèlerins palestiniens sont morts et 350 autres ont été blessés. À cette époque, environ 700 fidèles accomplissaient la prière du matin en congrégation dans la mosquée du complexe mosquée vieux de plus de 1000 ans. Dans la mosquée se trouvent les tombeaux de quatre prophètes, Ibrahim, Isaac, Jacob et Youssouf. Goldstein a été tué sur le coup par les fidèles survivants de la mosquée. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Kau kan selalu tersimpan di hatiku, meski ragamu tak dapat ku miliki, jiwaku kan selalu bersamamu, meski kau tercipta.
chansons de pop indonésiennes. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Voici mon Indonésie intitulée « L'Indonésie établit une coopération sportive avec la Russie ». L'Indonésie dispose déjà d'un plan sportif national, ou en indonésien abrégé en DBON, qui définit l'orientation future des athlètes indonésiens pour réaliser des exploits dont le but ultime est de participer aux Jeux olympiques et à d'autres événements internationaux. Pour rationaliser et renforcer le DBON, l'Indonésie s'efforce de collaborer avec des pays qui ont des réalisations dans les arènes sportives internationales telles que les Jeux olympiques. Cette collaboration vise à préparer et former des athlètes forts qui réaliseront des exploits sur la scène internationale. Dans le cadre de la mise en œuvre du DBON, le ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Indonésie, Dito Aryo Tejo, et son entourage se sont rendus en Russie pour rencontrer le ministre russe de la Jeunesse et des Sports, Oleh Matizin, à Kazan, en Russie, mercredi. La réunion visait à également à renforcer la diplomatie sportive de l'Indonésie avec la Russie. Lors de la réunion à Kazan, le vice-premier ministre russe Dmitry Chernysenko, l'ambassadeur d'Indonésie en Russie Joseph Tavares et l'expert du ministre de la Jeunesse et des Sports Hamdan Hamedan étaient également présents. Faisant rapport du communiqué officiel du ministère de la Jeunesse et des Sports jeudi, le ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Indonésie, Dito Aryo Tejo, a encouragé une coopération plus étroite entre les deux pays dans divers sports. Il espère qu'il y aura une coopération plus étroite dans plusieurs sports tels que le badminton, l'athlétisme, la gymnastique, la natation, le football, la lutte et le pencak-silat. Parallèlement, le ministre russe de la Jeunesse et des Sports, Oleh Matizin, espère que la coopération entre l'Indonésie et la Russie pourra apporter de grands bénéfices en termes de compétition internationale ou bien en échange culturel et de formation des athlètes pour l'Indonésie et la Russie. Au cours de la réunion, le ministre Oleh a également invité l'Indonésie à assister aux Jeux sportifs de BRICS qui auront lieu du 11 au 24 juin 2024 à Kazan. Outre sa rencontre avec le ministre russe de la Jeunesse et des Sports, le ministre Dito Aryo Tejo a assisté à l'ouverture des Jeux du futur qui promeuvent le concept FIGITAL, à savoir une combinaison de sports physiques et numériques. C'est tout mon Indonésie.
Sekedar kata maaf dariku Terserah kau suka atau benci Yang pasti aku terima Atau masih Rasa yang dulu pernah ada Maaf semua yang pernah kita lewati bersama tetap bahagia. Berilah waktu untuk mengulang kembali cita-cita kita yang terhenti.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, la Régence de Madiun est une zone touristique potentielle dont on peut être fier. Avec sa zone composée de forêts et de plusieurs autres attractions touristiques intéressantes telles que le tourisme d'intérêt et le tourisme culturel. L'une des attractions touristiques à ne pas manquer lors de la visite de Madiun est la cascade Seweru qui offre de belles vues. La cascade Seweru est située sur les pentes du mont Wilis à 400 mètres d'altitude. La source de cette cascade vient de sous la montagne et apparaît au-dessus d'un arbre ombragé. L'attraction touristique de la cascade de Seweru est située à environ 25 km de la ville de Madiun, à l'est du village de Kare, sous-district de Kare. L'air et l'environnement autour de cette cascade sont très frais. La beauté de la cascade Seweru, ou qui porte d'autres noms, Serondo, Selampir et Kedung Malam, s'accompagne de vues sur le tourisme forestier qui rehausse la beauté du panorama naturel. En dehors de cela, il existe également des attractions agro-touristiques qui ajoutent de la luminosité à l'environnement, comme les plantations de pommiers, les plantations d'oranges, les jardins de fleurs et les jardins de clous de girofles. Les arbres et les plantes ombragées qui poussent autour de la cascade confèrent également à cet endroit une sensation de fraîcheur typique de l'air des montagnes, loin de la pollution comme dans les grandes villes. Pour vous qui êtes courageux, vous pouvez également vous rapprocher de cette cascade, car en dessous se trouvent de nombreux gros rochers qui peuvent servir de place assise. En position assise, vous pouvez jouer dans la rivière en plongeant vos pieds. L'eau de cette rivière est également claire, invitant quiconque la voit à nager immédiatement et à s'y jeter. Le terrain étant sinueux, vous ne pouvez utiliser que des véhicules à deux roues pour aller à la cascade de Soero. Chers auditeurs, la cascade de Soero est équipée d'installations telles qu'un parking, un hébergement à des prix variables, des lieux de restauration et des toilettes publiques. Pour vous qui ne souhaitez pas passer la nuit dans une auberge ou un hôtel, vous pouvez installer votre campement dans la zone prévue à cet effet.
Hidup dalam kenangan.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Voici l'Indonésie en couleur, dont le titre est Le village de Penglipuran, Bali, figure sur la liste des meilleurs villages à visiter en 2024. Après avoir été connu comme le village le plus propre du monde, le village de Penglipuran a de nouveau obtenu une reconnaissance prestigieuse. L'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies a publié sa liste annuelle des meilleurs villages touristiques du monde 2024. Selon Time Out, il y a 54 villages sur cette liste. Ce nombre est bien supérieur à celui de l'année dernière, soit 32 villages. Il s'agit notamment de 5 villages au Pérou, de 4 villages en Chine, d'un village isolé en Inde, ainsi que d'un village touristique indonésien, à savoir le village Penglipuran. Le seul village touristique indonésien inclus dans la liste des meilleurs villages du monde en 2024 est le village Penglipuran. Le village de Penglipuran est situé dans le district de Bangli, à la région de Bangli, la province de Bali. Le village de Penglipuran existe depuis 700 ans, à l'époque du royaume de Bangli. Selon la légende, ce village était un cadeau du roi de Bangli aux personnes qui combattaient contre le royaume de Gianyar. Le droit coutumier, connu sous le nom d'Awig Awig, est toujours appliqué dans le village de Penglipuran, en dehors du respect des réglementations gouvernementales. Penglipuran est un village traditionnel qui défend toujours les nobles valeurs de ses ancêtres. Ces valeurs sont également incluses dans l'aménagement du village, à savoir la réalisation du concept Trimandala. Selon le concept Trimandala, l'aménagement du territoire du village est divisé en trois zones, à savoir Uttama Mandala, Madhya Mandala et Nista Mandala, qui sont ordonnées de la zone la plus au nord à la zone la plus au sud. La distance est d'environ 60 km de l'aéroport international Igusti Ngurah Rai et est accessible en 1h30 en voiture. Ce village touristique aux fortes valeurs culturelles a également remporté de nombreux prix il y a plusieurs années. Certains d'entre eux sont le troisième village le plus propre au monde selon le Green Destination Foundation et le Sustainable Destination Top 100 de la Green Destination Foundation. En 2022, ce village deviendra une destination de visite pour la délégation du G20.
Hidup ini Tuhan selalu doa untuknya. Jodoh bukan soal sempurna, namun yang mampu tangguh untuk bertahan dan berjuang. Takkan sia-kan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia. Banyak pasang mata saksinya. Takkan duakan dia, belum tentu esok kan masih ada. Kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hati.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne.
Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Cette fois-ci, je parle d'une chanson d'Afghan. Afghan a sorti son dernier single intitulé Shallow Water le 2 février 2024. C'est l'une des chansons de son dernier album anglais intitulé Sonder. Après qu'Afghan ait enregistré son premier album en anglais intitulé Wallflower aux États-Unis, cette fois l'enregistrement de Sonder a été entièrement réalisé à Londres, en Angleterre. Dans la chanson Shallow Water, Afghan était assisté de deux autres compositeurs, à savoir James Essien et Adam Knight, ainsi que d'un producteur, à savoir Maestro, producteur du single What Now de Rihanna. La chanson Shallow Water est une métaphore du bagage émotionnel de quelqu'un, des traumatismes passés et des blessures intérieures difficiles à guérir dans les relations. Ces choses peuvent empêcher quelqu'un de démarrer une nouvelle relation. Bon, chers auditeurs, voici Shallow Water d'Afghan. Bonne écoute!
You got your flaws and I got mine. You insecure, so am I. You take me just as I am. I might just love you for that. Part of the problem is that whenever it's good, it always turns into bad.
But we're here right now, let's stay here. One foot in the ocean, one foot on the sand. Let's keep it like that. Cause this don't feel like shallow water. Shallow water, shallow water. Baby, we should take a sec before we sleep up and we let each other fall. We can leave behind. What if we're just too hopeless and we don't even know? What if we say we do and we don't? Whenever it's good, it always turns into bad. But we're here right now, let's stay here. One foot in the ocean, one foot on the sand. Let's keep it like that. Cause this don't feel like shallow water.
Voice of Indonesia.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.